Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure dans votre émission pour aborder une thématique qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli dans les studios, dans les locaux de Radio Présence à Cahors dans le Lot pour parler de la pastorale des migrants au sein du diocèse. Et autour de la table, j'ai le plaisir d'être avec Jacques Allary, bénévole au Secours catholique et référent migrant. Bonjour à vous.
Bonjour.
Juste à côté de lui, le père Jacques Ahusseau, qui a été missionnaire au Brésil pendant de nombreuses années et prêtre au sein du diocèse de Cahors et responsable de la pastorale des migrants. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Arthur Nersissian, c'est bien ça qu'on dit ? Vous êtes migrant et originaire d'Arménie. Bonjour à vous.
Bonjour.
Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je tiens aussi à remercier Imanol Hernandez qui est derrière les manettes pour réaliser cette émission Vivante Église. On est là aujourd'hui pour parler de la pastorale des migrants. J'aimerais d'abord qu'on puisse définir le terme de migrant. Mon père, un migrant, qu'est-ce que c'est concrètement ?
Eh bien, migrant, c'est quelqu'un qui se déplace et qui nous rencontre. Et dans ce déplacement et cette rencontre, il y a des questions qui se posent. En termes d'accueil, de refus, d'ouverture, ça déstabilise. Alors, moi je voudrais vous dire, Jacques parle ça avec compétence, parce que je suis responsable. C'est en fait, nous partageons cette responsabilité au sein de notre Église, dans le diocèse de Cahors, dans l'Église de France, et l'Église catholique pourrait être ouverte, comme elle doit l'être par sa vocation. Ce que je veux dire, c'est là, au niveau pastoral, nous parlons ici, nous ne sommes pas les seuls dans, l'action auprès des migrants. Il y a des tas d'associations qui sont nées, et souvent, en dehors, ils ne confessent pas la foi en Jésus-Christ, mais ils sont nés, ils sont très actifs et admirables. Et je voudrais les saluer parce que pour nous, c'est très important de voir tout ce que des hommes et des femmes font au service des migrants. Alors, dans l'Église catholique à laquelle nous appartenons, ouverte, universelle, il y a le souci du bon pasteur. Jésus, le bon pasteur, c'est celui qui nous aide à accueillir, protéger, promouvoir la vie. C'est l'évangile de Jésus. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Eh bien, l'Église s'approprie cette dimension du bon pasteur dans cette pastorale des migrants. Pour être auprès des migrants, le bon pasteur que Jésus a été, veut être et souhaite que nous soyons avec lui et pour lui. Voilà.
Donc vous disiez, un migrant, c'est quelqu'un qui se déplace pour des raisons particulières. Ça peut être politique, ça peut être religieux.
Alors les questions sont souvent aujourd'hui des raisons économiques. Ce n'est pas des questions, Jacques pourra en parler, des questions de contraintes liées à des situations de conflit. Mais pour beaucoup aujourd'hui, eh bien, c'est comme c'était en France, à Cahors, quand les gens allaient bosser à la SNCF à Paris ou ailleurs. Ils se déplaçaient pour vivre. Beaucoup de gens aujourd'hui, alors, et nous avons des pays qui sont emblématiques, parce que nous ne sommes pas parlés des pays riches, et déjà idéalisent.
Les pays développés.
Ben oui, enfin développés ou mal développés, enfin, qui ont pris un certain développement, qui ont du capital, du pognon et de quoi manger, survivre. Et c'est, les gens envient, c'est pour y penser que chez nous, les billets sont sur les arbres, quoi. Il suffit de cueillir, et il y a une espèce de rêve. Alors on pourra en reparler parce que c'est aussi un peu un rêve qui est même ambigu, quoi. Oui.
Jacques Allary, je vous laisse prendre le micro. Vous avez été avocat avant de vous investir au sein du Secours catholique. Un migrant, c'est quelqu'un qui se déplace, on le disait. Il ne faut pas confondre avec un réfugié.
Alors d'abord, peut-être il faudrait rappeler qu'on a une déclaration universelle des droits de l'homme qui prévoit dans son article 13 que toute personne a le choix de pouvoir s'établir dans le pays qu'il souhaite. Donc là, il y a quelque chose qui rejoint un peu la doctrine sociale de l'Église, qui dit qu'il y a une destination universelle des biens. Les frontières ne sont pas chrétiennes. Dans la doctrine sociale de l'Église, on considère que toute la terre appartient à toutes les femmes et à tous les hommes de la terre. Quand on côtoie les personnes qui viennent nous voir et qui arrivent chez nous, tout de suite, on crée un lien qui personnifie les choses et qui, du coup, modifie complètement le regard qu'on peut porter. Alors, pour en revenir peut-être sur des termes plus juridiques, on va donc dire qu'une personne migrante, c'est une personne qui a quitté son pays pour s'établir ailleurs. On parle souvent d'exilés aussi. Nous, quelquefois, on préfère parler d'exilés. L'exilé, c'est quelqu'un qui a quitté son pays. Ce n'est pas un terme juridique, c'est un terme commun. On peut parler aussi de demandeur d'asile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile? Quand une personne arrive sur le territoire français, par exemple, ou en pays étranger, en principe, elle doit avoir un visa. Si elle n'a pas de visa, elle est considérée comme une personne étrangère qui rentre sans autorisation et qui pour autant a des droits. Celui notamment de demander l'asile, s'il peut justifier de persécution qu'il a subie, ou de demander le séjour, le droit au séjour, pour justifier, par exemple, que dans son pays, il n'a pas été en mesure de vivre ou de faire vivre sa famille et qu'il vient chercher la possibilité de les faire vivre. Alors, quand on parle de demandeurs d'asile, on est confronté à des personnes qui vont suivre tout un parcours de demande d'asile qui est compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui le moment d'en parler parce que ce serait trop long et trop compliqué, trop complexe. S'il obtient si son dossier est accepté, il devient un réfugié. Et là, il a un titre qui lui permet de rester dans le pays qu'il a choisi pendant 10 ans, renouvelable, etc. Si il n'est pas demandeur d'asile parce qu'il ne peut pas justifier de persécution, c'est une personne qui peut demander son droit au séjour. Alors là, c'est pareil, il y a tout un tas de possibilités de demande de droit au séjour. Et s'il obtient son droit au séjour, la situation est pour lui relativement réglée. Il est, comme on dit simplement, régularisé. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que quelquefois, quand les demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui pensent pouvoir justifier d'avoir subi des persécutions dans leur pays, sont déboutés de leur demande, ils se retrouvent très souvent sans droit ni titre pour rester en France et sans possibilité pour autant de repartir dans leur pays, parce qu'en général, s'ils sont venus, c'est soit pour des difficultés économiques, mais ils ne peuvent pas revenir dans leur pays parce que d'abord, ils ont suivi un parcours qui a été très compliqué et quelquefois très dangereux pour eux et qu'ils n'ont donc pas la possibilité matérielle de revenir dans leur pays. Ou bien c'est parce qu'ils ont subi des persécutions, mais qui ne sont pas considérées comme persécutions parce que quelquefois, ils viennent d'un pays dit sûr ou classifié comme sûr, alors pourtant qu'il y a des mafias et que quelquefois, ce sont les mafias qui les ont poussés à l'exil. Donc, ils ne peuvent pas repartir dans leur pays. Et c'est là où on se retrouve avec des personnes, des familles, comme celle notamment d'Arthur, qui se retrouvent sans rien, sans aucun droit particulier. Ils n'ont pas le droit au travail. Ils n'ont plus de ressources, puisque l'ADA, l'allocation pour les demandeurs d'asile, prend fin du fait de leur débouté. Ils n'ont pas le droit au logement. Et ils n'ont aucune allocation. Ils ont juste un droit à la CMU. Et ce sont ces personnes qui sont en très grande détresse, pour de multiples raisons, mais notamment pour des raisons économiques et financières, et souvent psychologiques et familiales, que nous recevons au Secours catholique et dont nous nous occupons.
Arthur, Jacques Allary l'a dit, vous êtes originaire d'Arménie. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Racontez-nous votre parcours.
L'entrée en France, c'était 3 janvier 2018.
C'est une date qui marque?
Ah oui.
Pourquoi?
C'était un changement de vie. Le début de carrément une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses. Effectivement, ce sont des moments compliqués à oublier parce que... D'abord, on ne parlait pas français. Et au début, l'intégration était assez compliquée parce qu'on essayait de contacter les gens en anglais. L'anglais, ce n'est pas la langue la plus parlée en France. Les gens, ça nous arrivait des situations quand les gens ils comprenaient anglais. Ils étaient capables de parler anglais, mais ils continuaient de répondre en français, en sachant bien qu'on ne parle pas du tout français. Donc, ça, c'était une des difficultés. Mais sinon, oui, c'était une date très remarquable qu'on ne va pas oublier.
Pourquoi vous avez décidé de quitter l'Arménie?
Ma famille a vécu des problèmes politiques. Il y avait des harcèlements au lieu de travail de ma mère et mon père qui ont appliqué sur leur enfant, sur ma soeur, mon frère et moi-même. Et ça, c'était dangereux pour nos vies de rester en Arménie.
Ça a été difficile comme décision à prendre, de partir, de tout quitter, de basculer vers l'inconnu.
Décision de quitter le pays était faite bien avant de venir en France. On a essayé une fois de partir à la Russie. Mon père, il est parti à la Russie pour chercher d'aide d'une église qui partage la même croyance que mes parents. Mais on va dire comme ça, m'a fait à des bras assez longs. Et on n'a pas réussi. Mais la décision, même si c'était compliqué, c'était déjà prise bien avant que nous sommes venus.
Vous êtes arrivé en France, vous le disiez, en janvier 2018. Quel est votre parcours juste avant? Vous êtes parti d'Arménie quand et quel pays vous avez traversé et quelles difficultés auxquelles vous avez été confronté?
Vu qu'il y avait un fort risque qu'on sera arrêté, même sur l'aéroport, surtout du point de vue du fait qu'une famille entière qui part, généralement, ne revient pas. Donc, on est partis séparément. Avec ma mère, ma soeur et mon frère, nous avons demandé un visa à part, alors que mon père, il a demandé après. Et nous sommes parti avec ma mère, ma soeur et mon frère, et c'est après que mon père, le lendemain, qu'il a quitté le pays. Nous avons passé par l'Espagne, on s'est passé par Toulouse pour venir au final à Cahors. Et mon père, il a, si je ne me trompe pas, il a passé par la Grèce. Ensuite, il nous a raconté à l'Espagne. À partir de l'Espagne, on a pris le bus, si je ne me trompe pas, oui. Nous sommes arrivés à Toulouse, train qui emmène vers Cahors.
Et pourquoi Cahors?
On nous a expliqué que si on veut commencer une nouvelle vie en France, il vaut mieux d'aller dans les petites villes. Parce que les grandes villes sont moins accueillantes et beaucoup plus compliquées à s'intégrer.
Ça fait 4 ans que vous êtes arrivé en France, on est fin 2022. Vous le disiez, le début ça a été difficile, le fait d'apprendre une nouvelle langue. Comment ça s'est passé ensuite?
Il faut dire quand même que je continue toujours à apprendre cette nouvelle langue.
Ça Mais on l'entend, même... vous la parlez quand même bien aujourd'hui.
C'est loin d'être parfait. Merci. Après... Les enfants, c'est-à-dire ma soeur, mon frère et moi-même, nous sommes inscrits au cours de FLE, français, langue, étranger. Soit c'est connu avec notre nom, FLS, français, langue, seconde. Ce sont des cours spéciaux où des élèves de différentes classes sont réunis pour pratiquer des cours de français, pour essayer de donner une base pour ensuite... permettre les élèves de pouvoir s'associer aux écoles, pour pouvoir s'intégrer. Pendant une année, normalement le cours c'est une année, on apprend les bases de langue française et ensuite on passe un examen, ça s'appelle DELF, je ne me souviens plus qu'est-ce exactement, mais c'est un examen pour valider le niveau A2 intermédiaire. Pouvoir ensuite continuer l'école, lycée, soit aller vers les études supérieures.
Et aujourd'hui, d'un point de vue scolaire, vous en êtes où?
Je suis dans une école d'ingénieur à INSA Toulouse, en deuxième année. Je peux dire que j'ai eu la chance d'y être. Il y a toujours certains petits soucis avec la langue française parce que les matières que j'apprends ne sont pas très faciles. Mais j'espère pouvoir arriver.
Vous pouvez être fier quand même du chemin parcouru. Si on vous aurait dit il y a 4 ans que vous serez en école d'ingénieur à Toulouse, vous y auriez cru ?
Je crois pas, non. Au début, je n'étais même pas sûr de pouvoir réussir le lycée parce que j'avais toujours des problèmes avec les nouvelles langues. Mais finalement, ça s'est bien passé.
Et au niveau social, vous vous êtes fait des amis, vous vous faites à votre vie toulousaine maintenant ?
Au début, au tout début, on va dire comme ça, chacun stresse à sa manière. Moi, je suis stressé en se fermant. Je suis devenu très fermé. Et j'étais surtout concentré sur l'hygiène. Je me lavais les mains au bout de chaque 5-10 minutes. Je ne pouvais pas s'asseoir sur un endroit qui peut être considéré non propre. Je veux dire, des choses comme ça n'aident pas à l'intégration. Mais de l'autre côté, j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui ont été très gentils, très accueillants. Et même si je ne parlais pas français, ils essayaient de faire l'effort de parler en anglais pour m'expliquer comment ça marche les choses, qu'est-ce qu'il veut dire le professeur. Les professeurs aussi, d'ailleurs, ils étaient très gentils, très accueillants. Ils comprenaient ma situation et ils essayaient de faire tout ce qu'ils arrivent pour que je reste pas fermé.
Vos parents, frères et sœurs, sont eux toujours à Cahors ? Ils sont correctement intégrés ? Ils se plaisent dans leur vie ici ?
Oui, je pense que ma famille est bien intégrée. Ils aiment leur intégration, on va dire comme ça. Ils sont toujours à Cahors. Ma sœur et mon frère sont au lycée Castelmonerville, en terminale. Ma sœur, elle veut faire des études en loi. Parce que, notamment, d'après notre expérience et d'après ce que se passe dans le monde, elle a décidé qu'elle va tenter d'aider les gens comme nous qui n'ont pas eu tous les droits, on va dire comme ça. Mon frère, il est un peu plus professionnalisé. Il fait un bac pro, maintenance électrique. Et en même temps, il fait boxe. Il est club de boxe de Cahors. Et notamment, en 25 novembre, il aura une compétition et il sera le seul représentant de Cahors. Donc, je peux dire que mon père, il a été maçon toute sa vie. Il a travaillé depuis ses 14 ans. Et en France, il a repris son profession. Maintenant, il a un contrat de travail. Il travaille. Ma mère, en Arménie, elle était économiste à Chemin de Fer, à l'appareil de contrôle. En France, elle a repris sa profession. Elle fait une formation de comptable, assistant comptable, en espérant ensuite aller vers gestion chez Greta, c'est une organisation qui fait des formations. Elle est en alternance, elle travaille à l'aide à domicile.
Jacques Allary, Arthur et toute sa famille, c'est un bel exemple d'intégration, de réintégration.
Extraordinaire, oui, exemple. C'est une famille qui est arrivée. Qui avait subi des persécutions sur lesquelles on ne va pas revenir, mais qui étaient, je peux en attester, considérables, qui a dû fuir son pays. Ce n'est pas un choix de leur part. Hein. Je pense qu'ils auraient préféré rester dans leur pays parce que souvent, je les vois avoir la nostalgie de l'Arménie. Donc, ils ne sont pas partis de gaieté de cœur. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Donc, victimes de persécutions avec des séquelles psychologiques importantes. Donc, tout naturellement, ils ont fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, une demande d'asile. On les a plutôt orientés vers une demande d'asile. Sauf que, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, étant donné que l'Arménie n'est pas listée européennement comme un pays non sûr, mais un pays sûr, ben, ils ont été déboutés. Alors, on a eu beau présenter des récits pour expliquer les persécutions qu'ils avaient subies, apporter certaines justifications, mais malheureusement, des justifications, dans ces cas-là, on n'en a pas beaucoup. Ils n'en ont pas beaucoup. Donc, ils ont été déboutés auprès de l'OFPRA. On a fait appel, ils ont été déboutés par la CNDA, la Cour nationale des demandeurs d'asile, et ils se sont retrouvés, du coup, dans la situation des déboutés, avec la perte de tous leurs droits. Ni droit au logement, ni droit au travail, ni droit aux allocations, ils se sont retrouvés sans rien. Donc, avec le parcours dont vient de nous parler Arthur, de lui-même et de toute sa famille, on mesure le courage de ces personnes-là.
Il faut s'accrocher.
Qui ne parlaient pas le français, qui n'avaient plus aucune ressource, plus de logement, plus d'hébergement, pas de droit au travail, alors qu'ils ne demandaient qu'à travailler, qu'à apporter leurs compétences à la France. Ils ont vécu de véritables galères. Ça ne se voit pas aujourd'hui, parce qu'Arthur est quelqu'un qui a magnifiquement réussi son parcours, mais ils ont vécu une véritable galère. Et cette galère est malheureusement partagée par des quantités de familles qui se retrouvent souvent avec des enfants en très bas âge, et on en a même parfois des enfants malades, à la rue. À la rue, parce que notre code de l'action sociale et des familles qui oblige l'État à héberger en hébergement d'urgence toute personne qui est sans hébergement n'accepte pas les déboutés. Éventuellement, elle les accepte 5 jours, mais pas plus. Donc, il n'y a aucune solution.
C'est que provisoire.
Si nos associations n'étaient pas là pour leur venir en aide, ben, ils seraient... aujourd'hui, la famille Nercissian, je ne sais pas où elle serait, mais elle serait en grande difficulté. Alors, le Secours catholique a bien compris que seul, il ne pouvait pas tout faire, l'hébergement, l'accompagnement juridique de cette famille, l'aide aux ressources financières. C'est pour ça qu'au niveau de Cahors, on a créé un collectif associatif avec la CIMAD, qui est très compétente en matière d'accompagnement juridique, avec Amnesty International, qui nous aide beaucoup au niveau de l'assistance, notamment pour accompagner les familles qui sont convoquées à l'OFPRA, qui est à Fontenay-sous-Bois, et à la Cour nationale de demandeurs d'asile, qui est à Montreuil, les accompagner dans Paris, les prendre en charge. On est également en lien avec des associations locales qu'on a créées, qui s'appellent Amigrants, qui a été faite par des citoyens bénévoles, cadurciens ou des villages d'alentour, qui aident notamment les personnes migrantes à s'occuper. Parce que quand elles n'ont aucun droit à rien, elles ont quand même besoin d'un peu de culture, qu'on s'occupe d'elles, etc. Donc ça, c'est ce que fait cette association. On a créé également dans ce collectif une association Jamais Sans Toi qui permet sur la base d'une formule 100 pour 1, c'est-à-dire que si 100 personnes acceptent de donner par exemple 10 euros par mois, eh bien 100 fois 10, ça permet de loger une famille migrante. Donc c'est comme ça qu'on a pu aider la famille Nercissian à se loger grâce à cette association Jamais Sans Toi. Et il y a également une autre association qui s'appelle Terre Kersinoise de Fraternité qui vient nous aider également pour accompagner les personnes, les véhiculer, etc. Voilà, donc comment on a pu accompagner cette famille qui est merveilleuse, hein, qui travaille avec nous maintenant, qui vit avec nous, c'est une famille qui est devenue qui fait partie de nos amis, qui a pu ainsi, grâce à l'appui associatif, sortir de ces difficultés qui sont pour elle insurmontables s'il n'y avait pas le tissu associatif.
Je vous propose qu'on fasse une première petite pause musicale et on revient dans moins de 3 minutes et on continuera à parler de la prise en charge des migrants au sein du diocèse de Cahors.
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Love that cannot lie. Love is strong in
Radio Présence à Pau 96. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. On est toujours en direct des locaux de Radio Présence à Cahors dans le Lot. Et autour de la table, toujours avec moi, Jacques Allary, bénévole au Secours catholique et référent migrant. Le père Jacques Ahusso, qui a été missionnaire au Brésil pendant de nombreuses années, qui est aujourd'hui prêtre et qui intervient beaucoup dans la pastorale des migrants. Et Arthur Nersissian, qui lui est un jeune migrant qui nous vient d'Arménie, qui est depuis 4 ans en France. On abordait juste avant la pause musicale. La pastorale des migrants. Mon père, concrètement, la pastorale des migrants, elle sert à quoi? Elle accueille combien de personnes? Qu'est-ce que c'est?
Elle nous aide à être chrétiens aujourd'hui sur des lieux où l'on n'était pas forcément tellement présent, puisque dans nos pays de chrétienté, on était plutôt des envahisseurs. Enfin, c'est nous qui allions vers les autres, mais en position de force. Mmh. Puis tout d'un coup, on a vu des gens venir chez nous en position de fragilité pour vivre. Alors, au sein de l'Église de France, peu à peu, s'est mis en place ce que Jésus faisait, il accueillait les gens. Et l'attitude, quand on revoit des gens qui sont différents, c'est de voir comment on n'est pas forcément porte ouverte immédiatement, surtout s'ils sont différents, on se méfie. Mmh. Eh bien, c'est pour essayer d'avoir l'attitude de Jésus. La pastorale, elle est au cœur de l'Église pour vivre. C'est une pastorale pour être l'attitude du bon pasteur et apprendre de Jésus comment accueillir l'autre dans sa différence. Le semblable, on sait le faire, mais le différent, on suspecte, enfin, c'est pas très facile. Il y a une conversion à faire, une conversion de sensibilité, de culture, de langue, apprendre à connaître un peu d'où il vient, qui il est, et le recevoir comme un frère, comme un frère.
C'est pas évident de recevoir l'autre comme un frère. Il y a la peur de la différence aussi.
Ah, mais c'est très important, bien sûr. La différence, la peur, c'est ce qui nous habite. Enfin, nous, on parle du péché originel. Mais originellement, on n'est pas accueillant à l'autre. Originellement, on se grandit pour soi et on s'entoure d'un mur, on se bloque sur soi-même. Quoi.
Enfin, mais comment faire justement pour sortir cette peur de la différence?
C'est une conversion permanente, s'ouvrir à l'autre. Alors en France, on a quand même des valeurs républicaines qui nous y aident. On essaie d'abord d'être républicain aujourd'hui, vivre la fraternité, et en même temps, des républicains qui soient chrétiens. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on a grandi un peu différemment, et puis on s'est mis un peu sur la touche, pour des tas de raisons légitimes d'ailleurs. Enfin, réapprendre à vivre notre foi comme disciple de Jésus. Jésus dit « Je suis venu chercher » et ça a été l'objet de sa condamnation. Finalement, ses dernières paroles, c'est d'écouter. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, parce que je vais là où vous n'allez pas, je dis ce que vous n'avez pas envie de dire. Et il sentait que ça devenait grave pour lui. Il a dit « Je viens chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Je viens chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Eh bien, je crois que c'est l'attitude chrétienne pour aujourd'hui. Et c'est un peu nouveau. Parce que nous, on était souvent ceux qui allions vers les autres en apportant la bonne parole. Nous savions tout. Et même les prêtres, dans la mission, tel que nous la vivions, on apportait la religion européenne. Puis tout d'un coup, on s'est dit, attention, il faut se mettre à l'écoute aussi des autres qui vivent des choses très intéressantes. Les Indiens au Brésil, en Amazonie, ont des tas de choses à nous apprendre. L'Afrique a des tas de choses à nous apprendre. Se mettre à l'écoute de l'autre, l'écouter. Et en l'écoutant, s'enrichir de nos différences. Eh bien ça, c'est évangélique. C'est le projet de Dieu. Alors la pastorale, elle est un peu tout ça, au sein de nos églises, de nos communautés chrétiennes, de faire que là où on ouvre la main pour recevoir le pain, partager l'Eucharistie, nous disons, enfin, qui est le corps du Christ, comme nous disons, quand on ouvre nos oreilles pour écouter la parole de Dieu, c'est pour ouvrir nos vies existentiellement à celui qui nous dit « accueille ton frère ». Ça se passe hors de nos églises. L'église, c'est au lieu où on le célèbre, on le prie pour essayer de le vivre, et c'est assez nouveau. La pastorale, elle est née pour être au cœur des communautés qui se réunissent pour la célébration, le lieu de l'accueil, de l'écoute et de la conversion à cette dimension nouvelle. Parce que tout d'un coup, il y a des gens qui viennent de partout. Et alors, chacun fait à sa mesure, plus ou moins. Enfin, il y a des règles, il y a des disciplinaires, tout ça est politique, on les comprend tout à fait. Ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais les chrétiens, c'est l'attitude fondamentale de l'accueil. Il y a un accueil intelligent, Jacques vient de le dire, il y a des droits qui sont inscrits dans nos pays au niveau international. On ne peut pas les ignorer. Ça demande une intelligence d'évaluation et une intelligence de la foi. Alors pour les chrétiens, évidemment, on passe les frontières. Il est évident que s'il n'y avait pas, je pense, le secours catholique, Greta, sa famille aurait été... On va au-delà, souvent les chrétiens, de ce qui humainement pourrait paraître raisonnable. C'est l'évangile de Jésus. Chercher et sauver ce qui est perdu. Eh bien, c'est au dernier des derniers. La présence de Foucault, que vient de canoniser, est très intéressante. C'était un Français. eh bien, il est allé vers les musulmans, les derniers des derniers. Voilà. C'est ce qui se met à la portée, qui s'abaisse jusqu'à celui qui est le plus bas. C'est la logique de l'Évangile, pour ressusciter à partir de cette réalité. Et nous donnons souvent l'exemple d'une église pompeuse, hein, qui regarde de tout de haut, qui toise. Ben, on héritait de ça parce que bon, ça a été notre histoire. Dans cette histoire, des choses se sont bien vécues. Mais aujourd'hui, nous sommes à reconvertir la manière d'être. Nous sommes toujours fidèles à nos traditions profondément, et les traditions que nous réapproprier pour aujourd'hui les vivre d'une manière qui soit engagée, incarnée, comme on dit, vivre cela à hauteur d'homme, quoi. Et hauteur d'homme, justement, des hommes qui sont les femmes qui sont les plus fragilisées par la vie. Enfin, voilà. Alors, la part sur les migrants, au fond, c'est ça. C'est intégrer dans nos communautés chrétiennes qui confessent Jésus, qui se réunissent pour cela, cette dimension d'accueil, de conversion et d'ouverture. Alors, le pape, il a trois mots. Il dit accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Alors, déjà, ce coup...
Si on reprend chaque mot.
Oui.
Accueillir.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, cette notion d'accueil? Comment on fait pour accueillir correctement les migrants? On leur ouvre les bras, mais concrètement, comment on fait?
On les regarde.
On les regarde comme des hommes?
On les regarde, on les écoute.
Comme des frères.
Comme des frères.
Comme des frères.
Ben oui. Mais la première attitude, ça, c'est regarder visage comme visage. Les chrétiens, c'est la religion du visage. Jésus disait, Bernard disait à Lourdes, elle m'a regardé comme une personne. Regardez l'autre. Regardez. Et c'est pas regarder dans le dos, c'est regarder en face. Et puis quand le regard change, enfin, c'est notre tête, qu'on ne pas perdre la tête. Et quand on regarde, on ouvre les mains, le corps, c'est notre corps qui devient différent, notre manière d'agir. Quoi.
Ouais. Le deuxième mot qu'emploie le pape François, c'est protéger.
Protéger. Ben voilà, alors Jacques en a parlé, Jacques, hein, protéger. C'est le travail qu'a fait Jacques, là. Hein,
pas seulement.
Jacques Allary, protéger.
Protéger, ben c'est... Voilà, on a écouté le témoignage d'Arthur, qui nous a parlé de sa famille. Moi, je considère que du jour où elle a été déboutée, cette pauvre famille, alors qu'elle aurait dû être acceptée à titre de réfugiée par les organes institutionnels, elle s'est retrouvée sans rien. Elle avait besoin de protection, elle avait besoin de protéger. Quand on voit un frère ou une sœur qui est en difficulté, Timothée, aujourd'hui, vous auriez votre frère ou votre sœur en difficulté, qu'est-ce que vous feriez? Vous la protégeriez? Voilà. Mais tout simplement, il faut regarder les personnes migrantes comme des frères, des sœurs qui arrivent, qui sont en difficulté. Comme le sans-domicile en France qui est dans la rue. Pareil, on ne fait pas de distinction. On protège tous les frères et sœurs qui sont en difficulté. Le pape a tout à fait raison, c'est le mot qui convient.
Et alors, je trouve intéressant, parce que dans l'Église, on parle beaucoup d'accueillir, c'est le langage religieux, mais qui est toujours un peu dans le langage de parole. Protéger, nous sommes dans un état de droit. Alors le droit, il a toute sa dimension, mais il a aussi toutes ses limites. Alors c'est important de voir tous, de déployer le droit avec des gens compétents comme Jacques. C'est très intéressant d'avoir des gens qui sont qualifiés dans le droit pour y dire, défendre ce que souvent on ne défendrait pas si on ne sait pas. Oui, donner tout le droit et en même temps faire que ce droit, il soit poussé aussi au maximum. Le droit, il est toujours à resituer dans des contextes. Eh bien ça, c'est important dans nos pays où il y a de la matière grise quand même. Oui.
Arthur, j'aimerais vous entendre sur cette notion de protéger. Quand vous êtes arrivé en France avec toute votre famille, vous vous sentiez vulnérable, sans repère?
100% vulnérable, sans aucun repère au tout début. Et ce qui est intéressant, comme Jacques Allary a expliqué, on a fait une première demande qui n'a pas marché. On n'a pas été accepté. Et après cette demande, on est resté sans logement. Parce que l'organisation qui nous avait donné le logement provisoire fait partie de la structure qui allait, au cas d'être accepté, on pourrait rester, mais vu que nous n'avons pas été acceptés, nous devrions trouver un logement nous-mêmes. Et c'est là que les organisations que Jacques Allary a nommées sont intervenues. Sécure catholique, CIMAD, Jamais sans toi, un migrant, toutes ces organisations. On a eu une grande réunion, c'était pas loin d'ici, c'était à Maison des Offres. Et pendant cette grande réunion, après plusieurs discours, ils ont réussi de nous trouver un logement. Loger une famille de 5 personnes, 5 c'est pas...
C'est pas facile, oui.
Ils ont réussi, ils ont trouvé chez... chez le voisin d'un des bénévolats de Croix-Rouge. Cette voisine, elle a proposé son logement très généreusement. Ils sont restés là-bas et ensuite, Jamais sans toi a trouvé un autre logement où nous sommes restés jusqu'à l'été de cette année. Mmh. Et à partir de cette année, on a eu tous les documents qu'on a reçus grâce à l'aide de notamment Alary et Simad, qu'on a su prendre notre appartement avec nos propres moyens. Mais c'est ça la protection de mon point de vue. On nous a protégés. La protection, ce n'est pas de prendre l'arme et aller rester devant les portes pour que personne rentre. Ce n'est pas la sécurité. C'est vraiment la protection de l'État.
Jacques Alary.
Oui, je voudrais ajouter qu'on est tout à fait en capacité de protéger, même et y compris l'État, quand il le veut.
C'est fort ce que vous dites. Ça veut dire que l'État ne le fait pas?
Bon, selon absolument, vous. L'État ne le fait pas. Ça, je suis clair de la question. Sauf quelquefois. On a des institutions qui savent protéger quand elles le veulent. On le voit aujourd'hui pour les Ukrainiens. Ils sont protégés, les Ukrainiens.
C'est intéressant ce que vous dites. Je vous arrête. C'est-à-dire que les Ukrainiens, on les intègre mieux, on les protège mieux que d'autres réfugiés.
Très simplement, aux Ukrainiens, on leur accorde, dès qu'ils arrivent, la protection provisoire, le droit au travail et le droit au logement. On n'en demande pas plus. Pour toutes les personnes qui arrivent dans les mêmes conditions que les Ukrainiens, ce qui était le cas de la famille à l'époque Nersissian. Si nos personnes migrantes avaient, à leur arrivée en France, le droit au travail, le droit au logement et la protection provisoire, il n'y aurait plus de difficultés. Il n'y aurait plus de difficultés parce que derrière, on a les moyens pour répondre. Donc, quand l'État veut protéger, il peut. Quand il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas. C'est politiquement, il ne le veut pas. Autre exemple. Beaucoup de bénévoles qui aidaient les migrants se sont vus poursuivis devant les tribunaux correctionnels au titre du délit, de ce qu'on a appelé le délit de solidarité. C'est un texte du code pénal qui effectivement prévoit que quand on apporte une aide de quelque nature qu'elle soit à un étranger en situation irrégulière, on commet un délit. Donc tous les bénévoles qui aidaient les personnes migrantes étaient des délinquants potentiels. Beaucoup n'ont pas été poursuivis parce que les parquets quand même ont fait attention et partagé souvent d'ailleurs aussi leurs convictions. Mais quelques-uns ont été poursuivis. Et il a fallu que ce soit le Conseil constitutionnel qui vienne dire « Mais la notion de fraternité de notre devise républicaine doit être déclarée comme ayant valeur constitutionnelle, ce qui empêche, ce qui rend par conséquent anticonstitutionnel les poursuites au titre de l'aide apportée aux personnes en difficulté, aux personnes migrantes. » Donc là, voilà un exemple précis où le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle à la notion de fraternité. Jacques, tu parlais tout à l'heure de la devise républicaine. Il suffit d'appliquer notre devise républicaine. Alors nous avons en plus nos convictions de chrétiens qui nous conduisent à la fraternité, mais même la devise républicaine nous inciterait normalement, à être fraternel envers toutes les personnes en difficulté.
Et sur ce terrain-là, moi, je salue les compétences quand même des chrétiens sur le plan juridique. C'est très important. Parce que le langage religieux, on dit protéger. En gros, la religion chez nous, ça a été se protéger. Et la religion faisait partie de la carapace de protection pour éviter tous les périls, les risques. L'évangile, c'est protéger l'autre, c'est se risquer à la rencontre de l'autre, c'est prendre des risques. On est disciple d'un crucifié. Jésus, c'est celui qui a pris tous les risques d'humanité pour sauver ce qui était paumé, perdu et pas reconnu par la loi. Alors, il y a là peu à peu quelque chose qui a fait école. Il nous faut, les chrétiens, réapprendre à protéger, à sortir de notre carapace de protection. On ferme des murs, on se ferme sur soi-même, c'est ça. Enfin, ça, on appelle ça le péché. L'ouverture, c'est justement se risquer comme disciples, vers des lieux où d'autres ne se risqueront pas, parce qu'on est pris par les lourdeurs existentielles. Quoi. Se risquer, et pour protéger l'autre, pour lui donner une protection qui l'aide à se développer. C'est pas sous une cloche, c'est lui donner tout, faire que toutes ces possibilités qu'il porte, comme Arthur, se développent. Mmh. Et sans vouloir le posséder, lui donner toute sa liberté, dans la liberté, la responsabilité, faire que l'humanité grandisse. C'est un peu ce que dit, enfin je vais terminer avec ça, ce que dit le pape dans la, c'est donc dimanche prochain, le dimanche des missions. Il dit qu'au fond, le sens ultime de notre voyage dans ce monde est de chercher la vraie patrie. On est de passage, on est tous des migrants sur cette terre, ben, on mourra. On en passe, hein, et ça nous dépasse, et on trépasse, comme on dit, quoi. Mais on va vers une patrie qui est plus large. Alors, on parle du ciel, enfin, Jésus parle du royaume de Dieu. Un espace existentiel qui nous dépasse, dont on est héritier, mais qui fait que où chacun sera accueilli dans son humanité, transformé, transfiguré. Enfin, tout ça, c'est un peu le langage de la foi, mais puisqu'on parle de pastoral, on ne veut pas l'éviter. Et Jésus nous dit que ça se construit sur cette terre. C'est à la manière dont on accueillera l'autre qu'on prépare nous-mêmes notre migration vers le plus loin. Et ça, il faut en tenir compte. C'est pas en se protégeant ici, mais c'est en se risquant. J'étais sans visa, puis tu n'as rien fait pour moi. J'étais sans logement, tu n'as rien fait pour moi. J'étais sans bouffe, tu n'as rien fait pour moi. Jésus me dira, ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Voilà, alors c'est cette dynamique-là où se noue la pastorale des migrants, dans le disciple-là de Jésus. Mmh. Et nous dit Jésus, personne ne doit être exclu. Son projet est essentiellement inclusif, et place des habitants, des périphériques existentiels au centre. Voilà. Pour dire, protéger l'autre, c'est protéger le projet de Dieu, lui donner tout l'espace de se déployer ici. Et ça demande des compétences en France. Mmh. Au Brésil, c'est plus simple, parce que nous, on prenait la parole parce que les gens ne savaient pas. Mais ici, il y a de la matière grise en France. Il faut la développer. C'est intéressant qu'on puisse développer tout ça sur le niveau des compétences pour agir au niveau des lois. Mmh. Mais bravo, Jacques.
Jacques Allary, je vous laisse reprendre le micro. Le troisième mot qui est mis en avant par le pape François, c'est promouvoir. Qu'est-ce qu'on entend par promouvoir ?
Mais c'est l'exemple d'Arthur.
Tout simplement.
Voilà.
Promouvoir, c'est-à-dire fructifier en tout cas le savoir-faire, les compétences des personnes migrantes qui arrivent
exactement
sur notre territoire.
C'est-à-dire reconnaître d'abord, comme disait tout à l'heure Jacques, il faut écouter, regarder, reconnaître la valeur que chaque individu a, et l'aider à développer ses propres talents. Arthur les a magnifiquement développés. Il faut promouvoir, c'est les aider à développer leurs propres talents.
C'est mettre l'autre devant.
C'est mettre l'autre devant.
L'autre devant. Mouvoir l'autre devant. Parce que souvent,
devant soi
devant. Hein?
Devant soi ou sur le devant de la scène?
Surtout, devant soi. Puis si on voit que sa caisse, il faut amplifier la caisse de résonance. Parce qu'on n'est pas unis, en fait. Promouvoir la vie, promouvoir tout ce qui fait la résonance existentielle de quelqu'un. Mouvoir en avant.
Le dernier mot mis en avant par le pape, c'est intégrer. C'est l'intégration des migrants dans nos sociétés. La société le fait difficilement dans les zones un petit peu moins densément peuplées. On l'a dit avec Arthur tout à l'heure, c'est plus facile pour les migrants de s'intégrer que dans des grandes villes, des grandes métropoles.
Alors le pape a raison de choisir ce mot d'intégrer plutôt que celui d'assimiler, parce que la grande crainte, notamment de certains mouvements extrémistes politiques français, c'est de perdre notre identité, le grand remplacement. Donc on a peur d'intégrer parce qu'on a peur de se désintégrer. Notre civilisation européenne. Et le pape a raison d'insister là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on intégrera les personnes migrantes qu'on perdra notre identité. On ne perd pas notre identité en accueillant l'autre. Au contraire, on s'enrichit terriblement en accueillant l'autre.
Le mot enrichir, il est intéressant. Justement, les personnes migrantes qu'il y a sur notre territoire peuvent permettre de... Alors, je n'ai pas forcément le mot qui me vient tout de suite, mais d'élever la France aussi un petit peu, de montrer que la France est une terre de diverses communautés, diverses populations.
Absolument.
Les migrants peuvent tous nous apprendre et enrichir notre pays.
Absolument. Et ils le font. De fait, ils le font. Ils enrichissent terriblement notre pays. On a des quantités de compétences qui nous arrivent. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut piller les autres pays. L'immigration choisie de Nicolas Sarkozy, c'est pas une bonne immigration. On n'a pas à choisir l'immigration. On a à accueillir l'immigration et ensuite à promouvoir, c'est-à-dire à faire en sorte que ces personnes qui arrivent se développent et se développant, elles nous développeront, elles nous enrichiront. Et on le voit bien dans nos... Actuellement, on a des métiers en tension, le bâtiment, la restauration, où les entrepreneurs se plaignent de manquer de main-d'œuvre. Et en même temps, on a des personnes qui voudraient, qui arrivent en France, qui voudraient travailler, qui ne veulent pas venir chercher, comme on l'entend souvent, des prestations familiales ou des prestations auxquelles, d'ailleurs, elles n'ont pas droit. Elles ne viennent absolument pas chercher de l'argent. Elles viennent, au contraire, apporter leurs compétences. Et à partir de là, donc, c'est un enrichissement pour nous que de les accueillir, pas de les choisir et de les faire venir et de prendre des compétences ailleurs, mais d'accueillir les personnes qui nous arrivent et de s'enrichir de cet accueil.
Père Jacques Ahusseau, il nous reste 2 minutes à notre émission. S'il y a quelque chose à retenir de ce qu'on vient d'évoquer sur accueillir un migrant, les migrants comme un frère.
Oui, l'image, justement, le signe qui a été choisi par les migrants, c'est une valise. Alors, une valise, on en voit partout, gros comme une valise, c'est pas très porteur, mais c'est une valise pleine de lumière, une valise qui dit l'espérance. Alors il faut garder ça, c'est intéressant. Le pape François, dans la lettre qu'il a envoyée pour ce dimanche, prochain dimanche 25, il dit construire l'avenir avec, accueillir, promouvoir, intégrer, rassembler. Il dit, en parlant du prophète Isaïe au chapitre 60, tous les peuples de toute la terre, cette vision magnifique d'Isaïe, tous les peuples vont converger vers la terre où l'Esprit de Dieu va se dire, c'est pas forcément Jérusalem, mais le monde entier, c'est la nouvelle Jérusalem. Hein. Et il dit, l'arrivée des étrangers présentée comme une source d'enrichissement. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. Toute cette richesse, c'est pas du capital, l'humanité dans toutes ses virtualités, ses possibilités. L'histoire nous enseigne que la contribution des migrants, des réfugiés a été fondamentale pour la croissance sociale, économique de nos sociétés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Leur travail, leur capacité de sacrifice, leur jeunesse, leur enthousiasme enrichissent les communautés qui les accueillent. Cette contribution pourrait bien être et très importante si elle est valorisée et soutenue par des programmes ciblés. Il s'agit d'un potentiel énorme, d'un travail. C'est surhumain, mais c'est l'humain de Jésus.
Et ce sera le mot de la fin en tout cas.
Très bien.
Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation dans les locaux de Radio Présence à Cahors dans le Lot. Merci beaucoup aussi à Imanol qui était à la technique juste derrière nous, qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup à vous auditeurs de nous avoir suivis et d'être fidèles à Radio Présence. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver celle-ci sur notre site internet radioprésence.com ou ce soir en rediffusion à 21h. Passez une très belle journée. On est à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.